C'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vous parlerai des podcasts, ceux que vous connaissez peut-être, mais surtout de ceux auxquels on ne pense pas forcément. Et je pense que vous ne serez pas déçus.
Midi 1, Amna, le rendez-vous des podcasts.
Je commencerai par émotion, émotion au pluriel, pour comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et surtout d'où viennent les émotions que vous éprouvez, puisque comme son nom l'indique, ce podcast est consacré à l'émotion dans toute sa complexité.
Est-ce qu'on a toutes et tous un peu de ce voyeur en nous ? Qu'est-ce qui fait que n'importe qui peut se retrouver un beau jour à stalker ses anciens camarades de classe ou ses ex ? D'où vient ce besoin viscéral de se tenir au courant de la vie des autres ?
Je vous parlerai également d'un podcast consacré aux jeux vidéo baptisé Joliment la Belle et le Gamer avec Ben et Aza, compagnons dans la vie. Ils partagent également une passion commune, les jeux vidéo, des nouvelles sorties aux classiques qu'ils décryptent pour vous de A à Z.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Aza.
Et il y a également ce podcast qui a retenu mon attention, Partir un jour. Ils sont deux, Aurélie et Rémi, et ils nous emmènent à chaque fois quelque part pour des vacances cadrées au millimètre près. Car oui, les vacances, ce n'est pas forcément que de la farniente, et ça, on a tendance un peu à l'oublier.
Partir un jour.
Partir un jour, c'est un podcast où on va s'intéresser à une destination. L'idée est qu'on s'en faisait avant le départ, à l'expérience sur place, en essayant de vous donner les meilleurs conseils pour en profiter un maximum.
Midi 1, Amna, le rendez-vous des podcasts.
Et je commence donc avec émotion, émotion au pluriel. Un lundi sur deux, le podcast vous est présenté par Brune Protero. Disponible sur toutes les plateformes de podcast de Apple, en passant par SoundCloud, sans oublier Spotify. Émotion est l'un des meilleurs podcasts pour mieux se connaître en 30 minutes et connaître les autres. Syndrome de l'imposteur, hypersensibilité, amour, jalousie. Dans Émotion, on n'a pas peur de s'engouffrer en nous-mêmes.
Émotion, c'est important de faire la différence entre une émotion et un sentiment.
Émotion !
L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
Oh, émotion, émotion,
émotion.
Dans Émotion, Brune Protero discute avec nous, sans tabou, de sujets autour de la psychologie et parfois, on parle même un peu philosophie. Les sujets sont tous plus intéressants les uns que les autres. Toujours en forme de questions, Brune Protero s'interroge et nous interpelle par la même occasion. Pourquoi est-il difficile de se sentir aussi libre ? Comment le stress post-traumatique s'inscrit-il dans notre corps ? D'où vient le sentiment d'insécurité ? Autant d'épisodes alléchants. Mais un épisode a retenu mon attention, celui sur le stalking, le fait d'observer les gens à leur insu. Un sujet plutôt tabou auquel Brune Protero s'est attaquée, avec notamment la journaliste Bénédicte Gilles qui a interrogé Pauline sur le stalking, qui s'est emparée d'elle alors qu'elle était encore toute jeune.
J'ai lancé un appel à témoignage sur Insta et j'ai reçu une réponse de Pauline, qui se définit elle-même comme une stalkeuse.
Salut ! Tu viens d'arriver ou ça fait un moment que t'es là ?
Non, vraiment à l'instant. En fait, mon premier train était en retard.
Ouais.
Le deuxième train était en retard.
Ah, ça c'est bien goupillé. Ça m'étonne pas du tout.
J'ai rencontré Pauline chez elle dans une petite ville du sud de la France. Comme moi, elle a toujours été très curieuse de la vie des autres.
Je voulais tout savoir sur tout le monde. Toujours des choses déplacées. À chaque fois, ma mère me disait « Mais arrête, on pose pas ce genre de questions. Pourquoi t'es obligée de vouloir tout savoir ?» En quoi ça t'intéresse, mais moi, c'est quelque chose qui me nourrissait.
Dans Émotion, et notamment cet épisode sur le stalking, Brune Protero n'est jamais dans le jugement, mais plutôt dans la réflexion. Est-ce qu'on est tous des stalkers ? Comment cela commence ? D'où vient ce besoin irrépressible de se sentir au courant de la vie des autres ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on continue de stalker malgré le sentiment de culpabilité ? Des réponses que Brune Protero se pose et nous pose en même temps. Et qui de mieux pour y répondre qu'Alexandra Machiatonio, docteur en psychologie sociale à l'université de Maastricht aux Pays-Bas, pour comprendre les mécanismes de la comparaison sociale.
Je m'appelle Alexandra Massiantonio, je suis docteur en psychologie sociale.
Alexandra Massiantonio travaille à l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Elle s'intéresse notamment à notre rapport aux réseaux sociaux. Je lui ai demandé pourquoi on a tendance, comme Pauline, à se comparer aux personnes que l'on stalke sur Internet. D'après elle, c'est dû à un mécanisme automatique, la comparaison sociale.
La comparaison sociale, en fait, c'est un phénomène assez simple, hein, et c'est un des premiers phénomènes en psychologie sociale qui a été défini. Et en fait, c'est simplement le fait qu'en tant qu'être humain, on va avoir tendance à se comparer aux autres. On distingue deux phénomènes, la comparaison ascendante et descendante. Et la comparaison descendante, c'est qu'on va se comparer à des personnes qu'on considère qui réussissent moins bien que nous et se dire bah, « finalement, je suis très gentil quand je vois ce que les autres font ».
Et ça s'applique aussi aux questions de réussite sociale. Par exemple, on va ressentir une certaine satisfaction en découvrant que ce mec qui nous a harcelé à l'école fait maintenant un travail que l'on trouve moins bien que le nôtre.
Et donc ascendante, c'est qu'on va se comparer à des personnes qu'on considère mieux que nous. Par exemple, quelqu'un que je considère de beaucoup plus gentil. Et je me dis, mais finalement, moi, je suis pas gentil parce que quand je vois tout ce que cette personne, elle fait, je me dis que je suis vraiment pas gentil.
Dans Émotion, le podcast destiné donc à décrypter nos émotions, comme son nom l'indique, Brune Protero va plus loin encore, approfondit ses réponses, son entendement et surtout sa réflexion, avec des témoignages de gens lambda, de spécialistes, allant jusqu'à faire appel à des chercheurs. Dans l'épisode concernant le stalking, le fait d'observer les gens, Brune Protero invite même Julia Sliwa, chercheuse au CNRS, à l'Institut du cerveau, afin de savoir si le fait d'espionner les autres est propre à l'humain. Mais est-ce que les animaux, en l'occurrence des primates ici, sont aussi des petits stalkers ?
Julia Sliwa m'explique que si l'on passe autant de temps à observer les autres sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un hasard. C'est lié aux structures cérébrales que l'on partage avec les primates.
On est vraiment très intéressés par les autres et on passe énormément de temps à les observer. Donc c'est ce que font la plupart des primates. Ils regardent les autres, ils observent ce qu'ils font. Et en fait, ils analysent beaucoup de leurs interactions sociales. Donc on sait justement qu'ils analysent par exemple qui est ami avec qui est dominant par rapport à qui également, quelles sont les relations d'accouplement que les autres ont les uns avec les autres. Oui, peut-être qu'effectivement il y a une similitude avec l'autre espèce où on observe également qui est peut-être en couple avec qui, etc.
Ok, donc les primates aussi sont des gros stalkers. Et comme nous, ils adorent observer leurs congénères.
Il y a des études qui montrent exactement ça chez les primates. C'est les études d'un chercheur qui s'appelle Michael Platt. Il leur donnait le choix entre recevoir quelque chose de très sucré, en termes de récompense, ou avoir l'opportunité de pouvoir regarder des visages ou des arrière-trains de leurs congénères. Et effectivement, ils se sont rendus compte que les macaques étaient prêts à ne pas recevoir de sucreries pour avoir la possibilité d'observer un visage de dominant ou un arrière-train de leur congénère. Donc oui, ça les intéresse et okay. C'est vu comme une sorte de récompense, effectivement.
Si l'on continue à stalker malgré la honte, c'est aussi parce que l'on ressent un certain plaisir à le faire. Un plaisir que l'on partage avec les primates en raison de mécanismes cognitifs sélectionnés au fil de l'évolution.
Vous l'aurez compris, Émotion, ce n'est pas seulement un podcast sur les émotions, mais c'est avant tout une discussion ouverte sur des sujets concernant l'humain dans ce qu'il a de plus complexe en lui. Avec des témoignages et des avis de spécialistes, Brune Protero nous pousse à la réflexion et à mieux nous sonder, nous et cet autre qui parfois nous rappelle étrangement ce que l'on ne comprend pas souvent chez nous. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on parlera jeu vidéo après avoir parlé émotion avec un podcast baptisé La Belle et le Gamer. Mais avant tout, petite pause musicale avec le dernier Lost Frequencies de Feeling. Et en parlant d'émotion, ça tombe bien et on se retrouve juste après donc pour parler podcast, jeu vidéo, La Belle et le Gamer.
We're dancing baby, under open skies, my heart is crazy, it tells me you're the one I should run, and the feeling goes on. Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. We're slipping on the highs, tomorrow we are gone. I should run, and the feeling goes on. And the feeling goes on, and on, and the feeling goes on. And the feeling goes on.
Midi 1, Amna, le rendez-vous des podcasts.
Et après émotion, le podcast consacré à l'humain et à ses émotions dans toute leur complexité. On parle tout de suite de jeux vidéo avec La Belle et le Gamer, un podcast consacré aux jeux vidéo. Tous les lundis, Asa, La Belle et Belle le Gamer nous parle jeux vidéo en 295 épisodes. Ils sont de ce monde pour nous, des nouvelles sorties aux classiques. Ils nous proposent d'ailleurs des dossiers ultra pointus, des rétrospectives, mais aussi l'ensemble de l'actualité. D'ailleurs, on écoute tout de suite ce qu'ils pensent de Final Fantasy XVI.
Les retours sont polarisés, on va dire.
Polarisé,
c'est le mot de la semaine.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est soit les gens ils sont très 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 contents, soit ils sont très 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 pas
polarisé,
contents.
Genre
oui, voilà, les pôles, opposés, voilà, tout ça. Parce que c'est un Final Fantasy qui a de très très bons côtés, c'est un Final Fantasy qui a aussi, alors pas des mauvais côtés, mais des choix assez...
Radicaux.
Assez radicaux, assez décisifs, qui peuvent contrarier les fans de la première heure, les fans de JRPG, de jeux de rôle à la japonaise.
La Belle et le Gamer, si c'est avant tout un podcast dédié aux jeux vidéo, c'est aussi une passion commune entre un homme et une femme, Asa et Ben, ensemble dans la vie. C'est Ben qui a initié Asa à ce monde qui peut sembler parfois hermétique aux non-initiés. Alors si vous êtes un joueur du dimanche et que vous n'êtes pas forcément expert en la matière, La Belle et le Gamer, c'est aussi ça, un moment de partage en toute simplicité, une discussion à laquelle on est invité, une discussion entre deux passionnés, mais également entre un homme et sa femme.
Pour l'instant, en tout cas, on est au début, hein. on a joué quelques heures, le jeu est sorti récemment, là, jeudi.
Oui, non, l'histoire est sympa.
Ouais, l'histoire est sympa.
Et l'histoire est intéressante et c'est cool.
Graphiquement, c'est très joli.
Mais il y a...
Après, c'est le jeu
est très linéaire.
Le jeu, en tout cas, au point où on en est, et on a quand même joué quelques heures,
ouais.
Le jeu est extrêmement linéaire. Ça rappelle un petit peu la linéarité qui avait été extrêmement critiquée pour Final Fantasy XIII.
Malgré l'aspect bon enfant des discussions entre Asa et Ben, La Belle et le Gamer, à retrouver sur les plateformes donc, de podcasts classiques, SoundCloud, Spotify ou encore... Appel est fait pour les non-initiés, mais également pour les experts de jeux vidéo. Ici, on décortique les jeux vidéo, bien sûr, et on va surtout au fond du propos. Les deux proposent un travail en profondeur sur les qualités et les défauts de chaque jeu vidéo. Et juste pour le plaisir, on continue d'écouter leur avis à la sortie de Final Fantasy XVI, un jeu qui avait fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie. Et il faut dire que Ben et Asa y sont pour quelque chose.
Et les plus gros combats, c'est les trucs qu'ils ont montrés 50 fois dans les trailers, et c'est le gros point fort, c'est un des gros points forts de Final Fantasy XVI, c'est les combats entre les primordiaux. Mais là aussi, c'est des combats, c'est très très spectaculaire, mais niveau gameplay, c'est pas super intéressant.
Tu joues pas.
Tu joues pas trop, tu contrôles à peine ton primordial. Voilà, t'as deux boutons, t'as un bouton pour attaquer, un bouton pour esquiver. Quand tu veux esquiver, ça marche pas trop. Parce que voilà, quand tu contrôles une créature qui fait la taille d'un immeuble, c'est chaud de faire des esquives. mais voilà, c'est joli, ça explose dans tous les sens. Tu balances une boule de feu et tu vois la forêt prendre feu dans le fond et tout. C'est incroyable. Visuellement, c'est incroyable. Niveau gameplay, ça a peu d'intérêt.
Oui, après, le jeu est quand même prenant sur le scénario, justement, sur le côté visuel, tout ça. C'est très prenant. Mais après, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis, bon, en fait, niveau gameplay, c'est pas hyper intéressant. Quoi.
Niveau gameplay, c'est pas hyper intéressant. Le scénario, il est pas nul, mais il enfonce un peu des portes ouvertes. Hein. Je veux dire, il y a des retournements scénaristiques. Alors,
tu les vois venir à 10 km. Hein.
Pour l'instant, on a eu deux gros retournements scénaristiques. Le premier, on était au courant parce que c'est ce qu'ils disent, ils l'ont montré dans tous les trailers.
Déjà.
Alors, je vous rassure, on va pas spoiler Final Fantasy XVI du tout, le scénario. Mais voilà, il y a eu un deuxième retournement de scénario, mais qu'on a vu venir de très très loin, tu vois.
8 km, quoi.
Pour l'instant, en tout cas, dans le scénario, il n'y a pas de subtilité. Il raconte une histoire extrêmement classique, avec des thèmes et une ambiance globalement plus sombre que ce que Final Fantasy fait d'habitude.
C'est vrai.
Ça saigne pas mal, c'est violent.
C'est violent, tout le monde
c'est
meurt.
C'est une violence qu'il n'y a pas d'habitude dans Final Fantasy, quoi, pas à ce point-là.
En tout cas, pas
de façon aussi graphique.
C'est vrai?
Ouais. Là, c'est extrêmement sanglant. Le jeu interdit pour au moins de 18 ans pour la première fois pour Final Fantasy. C'est plus violent que d'habitude.
C'est vrai.
C'est des thèmes qui sont un petit peu plus politiques que d'habitude.
La Belle et le Gamer, la référence des jeux vidéo en français. Et il faut dire que Aza et Ben sont les arcanes de l'industrie du jeu vidéo et proposent un travail de fond avec des dossiers complets, des rétrospectives, des nouveautés, sans oublier bien sûr les classiques. Et c'est tous les lundis sur toutes les plateformes de podcast, donc SoundCloud, Apple ou encore Spotify.
Midi 1, M1, le rendez-vous des podcasts.
Et après avoir parlé de jeux vidéo avec le podcast La Belle et le Gamer, on parle tout de suite voyage, on parle évasion avec Partir un jour, à retrouver sur Apple Podcast. Et c'est l'histoire de deux blogueurs, Aurélie et Rémi, qui voyagent ensemble et qui nous emmènent un peu avec eux, une fois par mois, pour un trip inattendu. De la Dôme en passant par Vegas ou encore le Japon, nos deux passionnés d'aventure et de dépaysement nous accompagnent au plus près pour des vacances réussies, surtout sans surprise. Car oui, d'en partir un jour, si la magie des vacances est là, ce qui prime avant tout, c'est d'être très bien préparé. D'ailleurs, pour cette première, on part tout de suite, sans plus tarder, à Cuba.
Au niveau des formalités, il y a deux documents qu'on va vous demander à le moment de l'atterrissage, au moment où vous allez arriver à la douane à Cuba. C'est un visa, donc en fait, ce qui est une carte touristique, et une assurance médicale.
Je vais juste dire, c'est les documents qu'on va vous demander à l'arrivée, mais bien sûr, il faut les prévoir à l'avance, ça se prépare, il faut compter un mois.
Alors si pour la plupart d'entre nous, voyage rime avec aventure, farniente et shopping, et d'en partir un jour, Aurélie et Rémi sont un peu plus terre-à-terre, et ce n'est pas plus mal. Pour eux, des vacances réussies, c'est avant tout des vacances bien préparées. Et leurs conseils et leurs expériences qu'ils partagent sont souvent très utiles. Comme ça, si vous allez un jour à Cuba, vous saurez que le stop et monnaie courante là-bas.
Il faut savoir que le stop est très répandu à Cuba. Aux entrées d'autoroute, vous verrez beaucoup de personnes agiter la main, parfois même avec des billets, parce que oui, on paye sa course en stop à Cuba. C'est un moyen de transport qui est nécessaire aux Cubains, parce que pour eux, se déplacer sur l'île, c'est assez compliqué. Le parc automobile est assez réduit.
Elle est belge, les Français, leur passion, c'est les voyages, faire un peu le tour du monde. Aurélie et Rémi nous régalent avec leurs expériences qu'ils partagent dans leur podcast mensuel baptisé Partir un jour. Et ce qui est bien avec les podcasteurs, c'est qu'ils décortiquent pour nous toutes leurs destinations, de la paperasse en passant par les bons plans. Et qui dit forcément voyage, dit nourriture. Alors on aime tous se faire plaisir avec de bons petits plats. Quand on est en voyage et à Cuba, Aurélie et Rémi ont trouvé le bon plan et pas forcément à celui qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on aime ce podcast. Donc Partir un jour.
Généralement, c'est des repas assez copieux.
Bon marché.
Toujours très bon. Enfin, on a toujours été bien nourris, on va dire.
C'est même parmi les meilleurs repas qu'on ait fait à Cuba, finalement. C'était quand on a mangé chez les habitants.
Et si Aurélie et Rémi donnent leur avis, surtout lorsqu'ils sont en voyage, d'en partir un jour, il est question, vous l'aurez compris, du quotidien quand on voyage. Et parfois, ça peut vite devenir difficile quand on parle pas la langue locale. Alors oui, parfois, c'est vrai, l'anglais peut nous aider, même si le pays n'est pas forcément anglophone. Mais parfois, comme à Cuba, l'anglais est très peu parlé. Et ça, il vaut mieux le savoir. Et Aurélie et Rémi sont là pour ça, et ont même des bons plans, encore une fois.
Donc, à Cuba, on parle espagnol. Et nous, l'espagnol, on a pris quelques cours en ligne avant de partir.
Des cours gratuits avec Duolingo.
Pour ne pas leur faire de la pub. Non, c'est un site très chouette pour apprendre rapidement quelques bases dans une langue étrangère. Et bon, on a un peu l'habitude de voyager, donc on s'est dit, avec l'anglais, plus savoir dire bonjour, au revoir, merci en espagnol, ça devrait passer. Ce qu'on avait oublié, c'est qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les États-Unis et Cuba. Et l'anglais, là-bas, en fait, pas du tout.
Oui, l'anglais n'est pas enseigné dans les écoles. Il y a très peu de personnes qui parlent vraiment anglais. Bon, dans les casas, un peu plus, en tout cas.
Un peu plus.
Mais c'est vrai que notre casa à Vignales, là, on était en espagnol only et c'était pas toujours simple.
Il y a eu plusieurs casas où on était en espagnol only, où on faisait appel aux fils, aux frères, aux neveux pour tenter de faire interprète. Bon, après, même quand il y a pas d'interprète, on se débrouille. Ce qu'on peut vous conseiller, par contre, c'est de prendre un guide de conversation ou un dictionnaire.
Et à la fin du voyage, peut-être que vous aurez la chance d'être parfaitement bilingue, comme Aurélie, qui a épluché le guide de conversation avec tous nos hôtes de casa.
J'ai fait des progrès en espagnol absolument époustouflants.
Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales, il va se mêler à eux, disparaître et vous ne le reverrez jamais.
Alors, on va peut-être s'arrêter là pour cette fois. On a pas mal passé en revue Cuba de manière générale. Je pense que la prochaine fois, on s'attardera plus sur des itinéraires, des conseils d'itinéraires, nous, le bilan de notre voyage, ce qu'on en a retiré et ce qui pourrait nous y faire y retourner, ou en tout cas ce qu'on aurait changé sur notre voyage.
Partir un jour, donc épisode consacré à Cuba, comme si vous y étiez. Aurélie et Rémi vous emmènent en immersion pour des vacances aux mauvaises surprises afin que vous profitiez au maximum. Bon plan, préparatif, les adresses à ne pas rater. Partir un jour est avant tout un podcast pratique qui peut être très utile si vous préparez un voyage. Et c'est à retrouver donc sur Apple Podcast. Et c'est une fois par mois, ou en tout cas quand ils ont le temps. D'ailleurs, on va prolonger le plaisir puisqu'on est parti à Cuba avec eux. C'est les vacances et on va un peu rester à Cuba, mais en musique cette fois-ci avec le groupe cubain Buena Vista Social Club. Question de se faire plaisir et leur morceau phare, Chan Chan. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on vous donne rendez-vous dès demain, même heure, toujours sur Média, pour un nouveau voyage dans le monde des podcasts, ceux que vous connaissez et ceux que vous connaissez un peu moins peut-être. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver toujours, tant qu'à faire, en avant-première sur Média Podcast.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Llego a Puerto, voy para Mayarín.